frères et sœurs et chers amis, nous continuons l'étude, la série concernant la prière. Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 48. Aussi, le titre pour aujourd'hui sera « Pourquoi vos prières ne sont-elles pas exaucées ?» Ça, c'est une question qui embarrasse, surtout aujourd'hui, presque tout le monde. Il est vrai que dans ce monde qui croit de plus en plus que Dieu n'existe pas, surtout que s'il devait par hasard exister, son ciel se trouve à des millions d'années-lumière. Donc, il faudrait être des débiles mentaux de croire que si Dieu existe vraiment, il pourrait, à de telles incroyables distances, exaucer une seule de nos prières. Alors, Dieu se désintéresse-t-il de ce monde ? Pourquoi les prières des politiciens et des prédicateurs sont-elles souvent si vaines et si rarement exaucées ? Eh bien, c'est principalement parce que la plupart des hommes, y compris les ministres ou les prédicateurs, ne connaissent pas réellement le vrai Dieu. Ils se le représentent comme un être assez vague, indéfinissable et lointain. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu, le grand législateur qui, par ses lois immuables, gouverne activement tout l'univers. Il semble oublier que Dieu se révèle lui-même dans sa sainte parole, la Bible, en nous faisant connaître sa nature, la façon dont nous devons lui obéir, ainsi que les promesses qu'il nous a faites. Tout d'abord, il faut croire la Bible. La parole de Dieu doit-elle être prise à la lettre? Exprime-t-elle réellement sa sainte volonté? Jésus-Christ l'a affirmé en disant « Ta parole est la vérité ». Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Les apôtres pensaient de même et enseignaient constamment que la parole de Dieu constitue la vérité. Que vous reste-t-il donc à faire? Allez-vous suivre les idées divergentes des hommes ou désirez-vous obéir à Jésus-Christ et vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. Pour que vos prières soient exaucées, il faut croire au Dieu de la Bible et en sa sainte parole qui est la vérité. Il vous faut agir selon la parole de Dieu et suivre ses commandements. Affranchissez-vous des traditions solidement établies de ce monde plein d'idées confuses, ainsi que de ses fausses doctrines. Recherchez le vrai Dieu dans la prière. Étudiez la parole de Dieu pour y découvrir ses commandements et ses promesses et croyez-le. La Bible nous révèle 7 conditions fondamentales que nous devons remplir pour que nos prières soient exaucées. En effet, c'est sérieux. Alors, la première de ces fondements, la première de ces conditions, nous allons la voir maintenant. Voyez-vous, premièrement, nous devons chercher, qu'on le veuille ou pas, et il faudra le vouloir, nous devons chercher la volonté de Dieu. Dans Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4, l'apôtre montre que les hommes, même dans leur lutte et leur guerre, se privent de l'aide de Dieu parce qu'ils négligent souvent de la lui demander. Et quand ils le font, ce n'est que des fins, que à des fins, on peut dire, égoïstes. Demander quoi que ce soit dans un tel dessein, il me semble que c'est demander mal. Une telle prière ne peut obtenir aucune réponse. Pour être exaucée, nous devons suivre l'exemple que nous laissa Jésus-Christ en disant « Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Saint Jean, chapitre 5, verset 30. Toutefois, vous est-il possible de connaître la volonté de Dieu ? Oui. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens, chapitre 5, verset 17. Étudiez la parole de Dieu comme l'apôtre Paul le recommanda à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Et c'est ainsi que vous commencerez à penser de plus en plus comme Dieu. Vous arriverez à connaître quelle est sa volonté dans chaque circonstance. Si vous croyez que Dieu est amour, et si vous savez que sa volonté est pour votre bien, alors vous désirerez selon sa volonté. Il n'est pas nécessaire de trouver dans la Bible une promesse déterminée pour savoir ou juste quelle est la volonté de Dieu. C'est par l'expérience et sous la direction divine que vous apprendrez à appliquer à toutes les circonstances qui peuvent se présenter les principes de la volonté de Dieu, principes qu'il a lui-même révélés dans la Bible. Ce qui est important, c'est de prier selon la volonté de Dieu pour être vraiment exaucé. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. La parole de Dieu révèle qu'en remplissant cette condition, nous pourrons être certains que Dieu répondra à nos prières. Demander selon la volonté de Dieu est donc la première condition fondamentale pour qu'une prière soit exaucée. Toutes les autres conditions découlent de celle-ci. Elles représentent des éléments déterminés de la volonté de Dieu en ce qui concerne la prière. Les six conditions, si après, jointes à cette première qu'elle amplifie, feront que les prières seront exaucées. Deuxièmement, nous devons absolument croire en Dieu. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'un manque de foi est simplement le fait de ne pas croire que Dieu tiendra ses promesses ou qu'il accomplira sa parole. Dieu a promis de guérir ses enfants par les prières de ses serviteurs. Jacques, chapitre 5, verset 14. Si vous doutez de cette promesse, eh bien, vous faites de Dieu un menteur. Ne vous imaginez pas que vous pourrez posséder la foi réelle en concentrant toujours vos pensées sur la chose désirée. La foi divine est simplement notre détermination, avec l'aide de Dieu, de mettre patiemment toute notre confiance en Dieu, en sachant qu'il accomplira sa sainte parole. Abraham possédait cette sorte de foi. L'apôtre Paul dit de lui : « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Abraham s'en remettait complètement à Dieu. Oui, et ceci pour l'accomplissement des promesses divines. Alléluia! Ça, c'est quelque chose de merveilleux, non? Et ça peut nous donner à réfléchir. Voyez-vous, si vous ne possédez pas la foi réelle, demandez à Dieu qu'il vous la donne, car la foi est l'un des dons du Saint-Esprit de Dieu, n'oublions jamais cela. L'apôtre Jacques a écrit sous l'inspiration divine qu'un homme doit avoir la foi pour voir ses prières exaucées. Jacques 1, versets 5 et 7. L'homme qui doute n'obtiendra pas de réponse. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 7. Verset 7, évidemment, de Jacques, chapitre 1. Donc, Dieu nous a fait, dans sa sainte parole, des centaines de promesses au sujet desquelles nous pouvons réclamer. La guérison n'est que l'une d'entre elles. Et lorsque vous êtes malade, obéissez-vous au commandement divin, vous prescrivant d'appeler les anciens, par exemple, les anciens de l'Église, selon Jacques, chapitre 5, verset 14. Comptez-vous complètement, avec une confiance totale, sur la promesse que Dieu a faite de guérir. Si vous croyez réellement que Dieu vous guérira, mettez alors toute votre confiance en lui et il agira. Car la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 20. Pour que vos prières soient exaucées, il faut bien entendu avoir la foi. Et il faut agir aussi selon cette foi. Troisièmement, ensuite, il faut être fervent. Et oui, voyez-vous, de nos jours, les parents, ils ont l'habitude d'enseigner à leurs enfants des prières à savoir par cœur. Et souvent, le père de famille dit machinalement une prière d'action de grâce à table, et le pasteur, il lit ou il récite de mémoire une prière très éloquente qui fait une grande impression. Mais Dieu est-il vraiment impressionné pour autant? Voyez-vous, les fruits prouvent que Dieu entend rarement ce genre de prière, car elle demeure généralement sans réponse. Et cela est bien naturel, car les gens ne prient pas de tout leur cœur. Osée, chapitre 7, verset 14. Ils ne supplient pas Dieu de tout leur être comme le faisaient les anciens prophètes ou le Christ lorsqu'il priait. La veille de sa crucifixion, Jésus-Christ a eu besoin de la force divine pour affronter l'épreuve. Il avait besoin d'être tout près du Père et il s'agenouilla. Et il pria en disant, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Saint Luc, chapitre 22, versets 43 et 44. Donc, Jésus-Christ, comme vous l'avez compris, il priait avec ferveur, et ceci de tout son cœur. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16, nous lisons ceci. « La prière fervente du juste a une grande efficace. Il vous faut donc prier avec ferveur, avec ardeur et avec zèle, si vous voulez que Dieu vous entende. Que votre cœur soit tout entier dans vos prières. Quatrièmement, nous devons craindre Dieu et ne pas avoir peur de nous humilier. Voyez-vous, l'homme moderne, il est tellement imbu de lui-même et pense qu'il peut très bien se passer de Dieu. Il ne le craint pas, il ne respecte pas la parole divine comme faisant par exemple autorité dans sa propre vie. Il est vain, il est égoïste et il est surtout hautain. Rien d'étonnant alors que Dieu ne réponde pas aux prières de tels gens. Voyez-vous, la toute première chose à faire pour connaître Dieu est de le craindre et de le respecter sa sainte parole. Eh bien, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, nous dit le psaume 111, verset 10. Voyez-vous, l'homme charnel doit se rendre compte qu'il n'est que poussière et qu'il retournera en poussière s'il ne reçoit pas l'Esprit de Dieu qui est l'engendrement à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est évidemment un don de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Ce n'est pas quelque chose que nous possédons déjà. Car qu'est-ce que notre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, selon Jacques chapitre 4, verset 14. Ce n'est pas très flatteur, mais c'est vrai. Nous devons craindre Dieu en nous rendant compte que nos vies sont entre ses mains. Nous devons être humbles et comprendre que tous les dons ou talents que nous possédons ne nous appartiennent que parce que Dieu nous les a donnés. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et c'est avec une telle attitude mentale que nous devons nous approcher de notre Créateur en respectant sa toute-puissance et son autorité sur nos vies. Et c'est alors qu'il entendra nos prières. Voyez-vous, nous devons craindre Dieu comme le Christ le craignait lorsque lui-même était dans la chair. Et c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Ce n'est que lorsque nous nous rendons pleinement compte de notre impuissance que nous pouvons parler à Dieu. L'apôtre Pierre écrivit, il a écrit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. L'humilité dans notre attitude, ainsi que la crainte de Dieu, sont en tout temps deux conditions essentielles lorsque on prie. Cinquièmement, nous devons faire preuve de persistance. Dans Saint Luc, chapitre 18, verset 1 à 8, Jésus-Christ nous enseigne par une parole que nous devons toujours prier sans jamais nous décourager. Il nous montre que même un juge inique finit par entendre les plaintes d'une veuve qui ne cessait de s'adresser à lui. Et nous devons donc continuer à prier même si Dieu ne nous exauce pas tout de suite. Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa sainte parole, mais nulle part il n'a spécifié quand ni comment il les accomplira, si cet accomplissement aura lieu de la manière que nous avons choisie. Il est quelquefois très bon pour nous de ne pas être immédiatement exaucés, et c'est de la sorte que Dieu édifie une foi patiente dans nos caractères. Jacques, l'apôtre, a été divinement inspiré d'écrire « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Jacques, chapitre 1, verset 3. Si Dieu n'exauce pas immédiatement vos prières, alors faites preuve de patience et continuez à prier jusqu'à ce qu'il réponde. Ne harcelez pas Dieu, car dans sa sagesse suprême, il connaît le moment opportun et la meilleure manière de répondre à vos prières. Si vous avez prié comme il convient, vous pouvez être certain qu'il répondra. Oui, Dieu tient toujours ses promesses, soyez-en certain. Faites preuve de persistance, continuez à prier avec foi, et Dieu va, en temps voulu, accomplir sa part. Sixièmement, nous devons lui obéir. Et oui, ça c'est difficile. La plupart des chrétiens négligent et violent la sixième condition, c'est-à-dire la sixième condition pour qu'une prière puisse être exaucée. Et ceci, croyez-moi, provient directement du fait, déjà mentionné du reste, que très peu de personnes aujourd'hui connaissent le vrai Dieu. Les gens ne regardent pas Dieu comme l'autorité suprême qui règne sur leur vie. Bien au contraire, ils se font un Dieu des coutumes, des traditions et des pratiques religieuses de la société, surtout de la société libéraliste. Saint Paul, sous l'inspiration divine, il a écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Romains chapitre 6, verset 16. « Si vous obéissez aux voies du péché, telles qu'elles sont pratiquées dans ce monde, alors vous mettez cette société et ses coutumes païennes à la place du vrai Dieu. » Dieu veut beaucoup plus qu'un semblant de piété. Il exige surtout, croyez-moi, de l'obéissance. Si vous n'avez pas encore appris à craindre le vrai Dieu et à accepter sa sainte parole comme faisant autorité dans votre vie, alors vous ne connaissez pas réellement Dieu. Car celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est tout simplement un menteur et la vérité n'est point en lui, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 4. Comment les hommes peuvent-ils s'attendre à être exaucés dans leurs prières s'ils persistent à refuser d'observer simplement les commandements de Dieu? L'apôtre Pierre nous répond « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 12. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. On l'a bien compris. Et c'est tout à fait justifié et expliqué formellement dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 4. Je répète, le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu ne répondra pas aux prières de ceux qui persistent à vivre dans le péché, c'est-à-dire dans le mal. Si les gens obéissent à Dieu, ils seraient exaucés dans leurs prières et Dieu ne semblerait pas si éloigné que cela et si peu réel, comme il paraît probablement l'être pour la vaste majorité qui pense que s'il existe, il est à des millions d'années-lumière. Impossible même, avec des télescopes un million de fois plus puissants que ceux que nous possédons, de pouvoir le découvrir. Comprenons bien ces choses et agissons en conséquence. Il y a des gens qui demandent « Dieu entend-il aussi les prières de ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui croient en rien ?» Oui, il les entend. Et oui, Dieu exauce quelquefois les prières de ceux qui obéissent selon l'étendue de leur connaissance. Les lépreux en son temps et les paralytiques qui venaient à Jésus-Christ pour être guéris, souvenez-vous, ne connaissaient absolument pas toute la vérité divine. Néanmoins, ils avaient compris que Jésus-Christ était envoyé par Dieu et qu'il pouvait vraiment guérir. Et ils agissaient selon leur connaissance. C'est donc le cœur et la bonne attitude qui comptent. Si vous vous présentez devant Dieu dans un esprit humble et repentant, fermement décidé à lui obéir selon le degré de connaissance que vous possédez, il entendra, oh oui, il entendra vos prières. Toutefois, pour ceux qui connaissent la vérité, il n'existe aucune excuse pour désobéir. Les vrais chrétiens peuvent avoir la certitude absolue que Dieu exaucera leurs prières s'ils lui sont obéissants. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Cela aussi est confirmé dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 22. Et septièmement, eh oui, nous devons demander au nom de Jésus-Christ. La septième condition à remplir pour que nos prières soient exaucées, c'est évidemment l'emploi correct du nom de Christ. C'est un sujet très mal compris. Et c'est pour cette raison même qu'on abuse souvent du Saint-Nom de Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ a été avec ses disciples pendant plus de 3 ans, et après qu'il leur a enseigné la volonté de Dieu et la façon de lui obéir, il dit « en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Or, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors, demandez et vous recevrez. Oui, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Saint Jean, chapitre 16, versets 23 et 24. Ainsi, quand nous prions Dieu, nous avons le privilège d'employer le Saint-Nom du Christ, c'est-à-dire de demander par son autorité. Mais la multitude comprend très mal comment on peut demander au nom de Jésus-Christ. Lorsque le gouvernement français envoie un ambassadeur dans un autre pays, croyez-moi, cet ambassadeur a le pouvoir pour traiter certaines questions au nom du gouvernement français. Il peut donc agir au nom de ce gouvernement parce que l'autorité lui a été conférée d'agir comme le représentant d'une nation en vue de l'accomplissement d'une certaine mission. Mais cette autorité, elle est limitée. L'ambassadeur ne peut faire que ce que le gouvernement a spécifiquement autorisé. S'il outrepasse ses pouvoirs, eh bien ses actions seront nulles et non avenues, et elles ne seront point ratifiées par le gouvernement qui l'a envoyé. Et c'est de cette manière-là que nous devons demander au nom du Christ. Le Christ a donné à ses serviteurs le pouvoir d'accomplir certaines fonctions en son saint nom ou de par son autorité. Nous avons le droit de demander des choses au nom de Jésus-Christ seulement quand nous savons vraiment que ces demandes sont selon sa volonté, c'est-à-dire lorsque elles ont son approbation. En conséquence, il ne sert absolument à rien de prononcer les mots au nom de Jésus-Christ après une prière qui serait contraire, totalement contraire à la volonté divine. Je répète, il ne servirait absolument à rien de simplement prononcer les mots magiques au nom de Jésus-Christ, et ceci après une prière qui serait contraire, totalement contraire, à la volonté divine. Donc, ceux qui sont en Christ et qui sont les enfants de Dieu ont le privilège de prier au nom du Christ. Jésus-Christ a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Saint Jean chapitre 15, verset 7. Les paroles de Jésus-Christ doivent donc demeurer en nous, en vous. Il vous faut demander selon sa volonté. Vous devez demeurer en lui, c'est-à-dire vous devez lui appartenir, nous devons lui appartenir. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, selon Romains chapitre 8, verset 9. Or, Dieu donne son Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent et qui lui obéissent, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Afin de pouvoir prier au nom de Jésus-Christ, vous devez vous soumettre. Oh oui, nous devons nous soumettre à sa volonté selon l'étendue de notre connaissance. Au nom de Jésus-Christ signifie de par son autorité. Je répète, au nom de Jésus-Christ, cela signifie faire une demande selon et par son autorité. Vous priez par lui qui est votre souverain sacrificateur. N'oubliez jamais cela. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Christ, notre souverain sacrificateur, a été tenté comme nous en toutes choses. Verset 15. Il comprend nos faiblesses. Et c'est sa volonté révélée de nous donner de son Esprit Saint. Saint Luc chapitre 11 verset 13. Et aussi de nous aider à avoir la vie en abondance. Saint Jean chapitre 10, verset 10. Oui, c'est en étudiant la sainte parole de Dieu que vous connaîtrez les principes de sa sainte volonté. Et cela vous permettra de demander par sa ou par son autorité. Pouvoir prier au nom de Jésus-Christ est évidemment un grand privilège. Si vous employez le nom de Jésus-Christ correctement, alors vos prières seront exaucées à cause de l'autorité qui lui a été conférée. Chers amis, si vous vous conformez fidèlement à ces sept conditions qui rendront votre prière efficace, alors, avec l'aide de Dieu, vous pourrez avoir la confiance absolue que Dieu vous entendra et qu'il vous exaucera, et vous changerez et vous vous approcherez chaque jour, oui, chaque jour un peu plus près de Dieu. Et vous chercherez avec ardeur quelle est sa volonté et vous voudrez bien entendu l'accomplir. Et par ce contact intime avec le Créateur des cieux et de la terre, alors vous allez acquérir la paix de l'esprit et une confiance inébranlable que rien, absolument rien ne pourra détruire. Alléluia. Ce ne sera pas une confiance en vous-même, surtout pas, mais en la plus grande puissance qui existe. Oui, vous aurez le droit de faire appel dans tous vos problèmes et dans toutes vos épreuves à cette puissance suprême qui est le Dieu vivant, qui se révèle lui-même dans la Sainte Bible. Donc, Dieu a inspiré un exemple pour nous montrer comment il a répondu même aux prières d'un homme non converti, parce que celui-ci avait un esprit droit et avait obéi selon sa connaissance. Voyez-vous, dans le deuxième livre de Rois, chapitre 20, versets 1 à 11, là, nous voyons comment le roi Ézéchias, qui était sur le point de mourir, chercha le secours de Dieu et comment Ésaïe, prophète de l'Éternel, avait dit à Ézéchias qu'il allait mourir. Mais voyez-vous, Ézéchias, il savait que l'Éternel était un Dieu miséricordieux. Il savait pas tout, mais au moins il savait cela et que lui-même avait obéi à Dieu du mieux qu'il pouvait selon sa connaissance. Alors, Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il a versé beaucoup, beaucoup de larmes. Oh, et comment ? Et il a imploré l'Éternel, selon le verset 3. Et ceci, en priant de tout son cœur. Oui, il a pleuré amèrement et il a crié à Dieu de tout son cœur. Et bien que l'Éternel avait dit clairement à Ésaïe qu'Ézéchias allait vraiment mourir, eh bien il a entendu et il a exaucé la prière fervente de ce dernier. En effet, Dieu a même prolongé de 15 ans, la vie d'Ézéchias. Quelle merveilleuse réponse à une prière, ne croyez-vous pas? Mais cela n'a pas été tout. Le plus incroyable, vous allez l'entendre maintenant. Ézéchias, qui ne doutait absolument point de la puissance de Dieu pour intervenir et pour agir, demanda en plus à Dieu de lui montrer par un signe spécial qu'il serait vraiment guéri. Verset 8. Alors, nous sommes donc dans le deuxième livre des rois. Rappelez-vous, chapitre 20, parce qu'on peut perdre le fil. Donc, Esaïe, le serviteur de Dieu, laissa le choix du signe à Ézéchias. Ou bien, l'ombre avancerait de 10 degrés, ou elle reculerait de 10 degrés. Ou si Ézéchias dit ceci, qu'il serait bien entendu beaucoup plus difficile à l'ombre de reculer de 10 degrés. Alors le prophète Esaïe invoqua à nouveau l'Éternel et l'ombre recula de 10 degrés selon le verset 11. Voyez-vous, à cause de la foi merveilleuse et ferme d'Ézéchias et de son obéissance et de ses prières ferventes, non seulement l'Éternel Dieu a guéri Ézéchias en ajoutant 15 années à sa vie, mais encore, il a fait reculer le soleil dans le ciel. Tout cela peut nous sembler invraisemblable, et le plus grand nombre d'entre vous pensera, « Oh là là, ces pauvres gens, comment peuvent-ils croire de pareilles choses ?» Oui, cela n'était pas une illusion d'optique, comme on pourrait le croire, car les miracles de Dieu, ils sont réels, car à Dieu, rien, absolument rien, est impossible, selon saint Luc, chapitre 1, verset 37. Si vous croyez que la parole de Dieu est la vérité, eh bien cet exemple devrait vous inspirer à prier comme jamais auparavant. Donc, priez pour l'œuvre de Dieu, pour ses serviteurs et pour son peuple de par le monde, et demandez avec foi les choses qui vous sont nécessaires. Reposez-vous sur Dieu chaque fois que vous êtes dans la peine, car Dieu est absolument tout-puissant. Chers amis, voyez-vous, quand vous êtes malade ou en difficulté, vous vous tournez vers Dieu. Mais possédez-vous la foi et la sagesse nécessaires pour laisser complètement votre situation entre les mains de Dieu ? Êtes-vous absolument certain qu'il délivre ses enfants de la maladie ou des épreuves de toute espèce ? Oui, on sait que peu de gens en sont vraiment certains. Quand nous n'avons pas la sagesse et le pouvoir de résoudre nos problèmes, eh bien nous sommes découragés et malheureux. Il en est de même qui se suicide. Oui, il y en a. Et oui, il y en a aujourd'hui de plus en plus qui se suicident. Quel gâchis! Trop souvent, nous oublions ou nous ignorons même que nous avons le droit d'invoquer le Créateur suprême des cieux et qui est pas seulement le Créateur suprême des cieux et de la terre, afin qu'il puisse nous aider. Il est prêt de nous aider dans toutes nos possibilités de problèmes, dans tous nos problèmes. Car sa sagesse, qui est infinie, et sa puissance, qui est également infinie, suprême de tout l'univers, seront avec chacun de nous. Et ceci à condition, évidemment, que nous accomplissons notre part. Je répète cela un peu différemment. La sagesse de Dieu qui est infinie et sa toute-puissance suprême qui est de tout l'univers, dans tout l'univers, seront, croyez-moi, avec chacun d'entre nous. Pour autant que, ou si vous voulez à condition, que nous accomplissions notre part. Donc, Jésus-Christ nous a laissé un exemple parfait afin que nous suivions ses traces. Vous pouvez noter la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Sa vie a été pleine, vraiment pleine, et elle a été absolument abondante. Et ce fut une vie remplie de l'amour, remplie de la puissance de Dieu. Il savait comment rester en contact étroit avec la puissance suprême de l'univers et comment s'en approcher. N'oublions jamais que Jésus-Christ, il est vraiment notre modèle. Pouvez-vous imaginer le Christ agir comme si Dieu s'était éloigné de sa création? Et pourtant, c'est l'attitude même dont la plupart des chrétiens actuels font preuve. Comptent-ils complètement sur Dieu pour les guérir lorsqu'ils sont malades ou pour les sauver d'un désastre? Comptent-ils sur lui pour les bénir dans toutes les choses matérielles et aussi spirituelles? Non, 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 non. Bien entendu, le Christ, à l'inverse de la multitude, s'attendait réellement à ce que Dieu intervienne pour guérir les malades, chasser les démons et même calmer une tempête sur la mer. Les disciples ont été témoins de cette attitude du Christ et s'efforçaient eux-mêmes. Oui, il s'efforçait d'avoir cette sorte de contact intime avec Dieu. Les fruits que le Christ obtenait leur montraient qu'il connaissait la véritable voie d'accès à l'éternel Dieu pour invoquer sa toute-puissance afin d'obtenir une aide dans toutes les situations critiques. Et c'est cette clé même, c'est-à-dire la manière correcte d'invoquer la toute-puissance divine que nous devrons tous employer chaque jour de notre vie, mes chers amis. Elle donnera à notre existence une signification nouvelle et y apportera de la force. Toutefois, oui, toutefois, cette clé, elle est mal employée, et ceci par les hommes et leurs différentes religions. Rappelez-vous toujours que le Christ, il est vraiment notre exemple. Il savait, quant à lui, employer cette clé parfaitement, et les résultats ne se faisaient jamais attendre. Le Christ nous enseigne la manière de prier. Dans Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13, nous lisons qu'un jour, les disciples allèrent trouver Jésus-Christ pour s'enquérir comment on pouvait arriver à établir un vrai contact avec Dieu. « Seigneur, ô Seigneur, enseigne-nous à prier. » À prier, c'est ce qu'ils lui ont demandé. Et les gens ne savent plus prier. Ils ont besoin qu'on leur enseigne comment prier. Le Christ leur a donné une prière à titre de modèle. Vous avez bien entendu, seulement à titre de modèle. Donc, une prière qui donnerait des résultats. Saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Or, analysons donc ce parfait exemple de prière. Elle s'adresse à notre Père. Rappelez-vous qu'il y a d'autres personnes que vous, qui essayent aussi de servir leur Créateur et leur Père spirituel, et que Dieu nous aime tous beaucoup plus qu'un Père humain n'est capable de le faire. De plus, il possède surtout la sagesse nécessaire pour nous aider de toutes sortes de manières, ce qui est impossible à un père humain. Donc, votre père terrestre vous laisserait-il mourir d'une terrible maladie s'il était en son pouvoir, par exemple, de l'empêcher? Par exemple, la fille d'une mère qui tout à coup a malheureusement attrapé un cancer. Est-ce que sa mère va simplement croiser les bras et penser c'est la fatalité? Oui, Dieu peut empêcher beaucoup de choses. Et à plusieurs reprises dans la Bible, notamment dans le psaume 103, verset 3, et dans Jacques, chapitre 5, verset 14, que nous avons déjà de nombreuses fois cité, Dieu vous promet de vous guérir. Réclamez à Dieu, tout simplement, l'accomplissement de ses promesses quand vous priez. Et pensez toujours à lui comme étant votre Père céleste. Les mots « qui est aux cieux » nous rappellent que Dieu n'est pas un Père ordinaire, mais quelqu'un que vous devez adorer. Nous devons être humbles et pleins de respect quand nous prions le vrai Dieu. Que ton saint nom soit sanctifié montre clairement que le nom divin, ainsi que tout ce qu'il représente, doit être l'objet de notre respect. Oui, tout ce qu'il représente doit absolument être l'objet de notre respect, car le nom de Dieu sera un jour notre nom si nous sommes vainqueurs et que nous naissons de Dieu. Et ce nom inclut de l'autorité pour gouverner et il doit donc toujours être respecté. Donc, chers amis, que devons-nous demander ? Nous devons demander que ton règne, ton royaume vienne. Telle est la première demande faite dans cette prière parfaite. En tout premier lieu, nous devrons donc prier pour que le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, vienne sur la terre. Combien y a-t-il de soi-disant chrétiens qui désirent réellement que Dieu gouverne leur vie ? La plupart des hommes à l'esprit charnel se servent de tous les moyens imaginables pour cacher à leurs yeux le fait que Dieu est le souverain suprême. Les chrétiens doivent donc prier que ce soit vraiment Dieu, oui, Dieu, qui gouverne ce monde. Il n'y a en effet que le gouvernement divin qui amènera la paix et le bonheur que ce monde essaye en vain d'obtenir, selon Ésaïe chapitre 11. La phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » nous enseigne à soumettre quoi ? À soumettre notre volonté à Dieu. Oui, nous devons la soumettre à Dieu quand nous prions et à reconnaître son gouvernement, son autorité. N'oubliez pas que Dieu sait ce qui est le mieux en toutes choses. Vous devez étudier la parole de Dieu afin d'apprendre les principes de la volonté divine et d'y conformer vos prières. Saint Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 17 « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ayez soif de la parole de Dieu et étudiez-la de telle façon que vous commenciez à penser comme Dieu. Hein, nous devons commencer à penser comme Dieu pense, et que sa sainte volonté ait donc ainsi une place dans notre caractère. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous dit Philippiens chapitre 2, verset 5. Et de la sorte, vous allez prier selon la volonté divine qui est révélée dans la Sainte Bible, et vos prières seront donc exaucées. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, eh bien cela montre d'une façon claire et nette que Dieu désire que nous lui demandions ce qui nous est matériellement nécessaire. Remarquez cependant que nous ne devons pas demander de grandes richesses, mais seulement notre pain quotidien. Dieu a promis de pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. C'est la volonté de Dieu que nous prospérions et que nous soyons en bonne santé, selon la troisième épître de Saint Jean, verset 2. Toutefois, la richesse peut quelquefois devenir une pierre d'achoppement pour notre foi. Et c'est pourquoi suivons l'exemple du Christ et ne demandons que notre pain quotidien et non pas des provisions pour les années qui sont devant nous. Chers amis, pardonnez aux autres et résistez au diable. Oui, pardonne-nous nos offenses, est-il dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous ne pouvez demander à Dieu de vous pardonner que lorsque vous-même, et je le dis aussi pour moi-même, lorsque moi-même aura pardonné aux autres. Ne vous agenouillez jamais devant Dieu avec des sentiments d'amertume, de ressentiment ou de haine. Si vous ne savez pas d'abord vous débarrasser de ces sentiments, demandez à Dieu qu'il vous purifie et qu'il remplace l'esprit de haine par son esprit d'amour. Car l'amour est charitable, l'amour est passion, surtout avec les autres. Et c'est un sentiment merveilleux que de savoir que vous ne haïssez personne et que peut-être maladroitement vous essayez de témoigner de l'amour aux autres. Dieu entend les prières d'un homme, d'une femme qui possède un tel esprit et il y répond. Pardonnez-moi. Et ne nous induit pas en tentation. Oui, Dieu lui-même, croyez-moi, il ne tente jamais personne. Non. Jamais. Ça, vous pouvez le voir dans Jacques, chapitre 1, verset 13. Donc ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais je crois bien que c'est l'autre. Sans le nommer, vous savez qui c'est. Cependant, il permet que nous soyons tentés par Satan et par nos propres convoitises. Nous devons donc prier constamment afin qu'il ne permette pas que nous tombions en tentation ou que nous y participons, mais qu'il nous donne plutôt la puissance spirituelle nécessaire pour maîtriser tous les mauvais désirs que nous pourrions avoir. Donc, délivre-nous du malin, c'est-à-dire de Satan. En effet, dans le grec original, il y a le malin et non pas seulement le mal. Le mal vient du malin. Demandez à Dieu chaque jour de vous donner la force de résister au diable et le diable fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Soyez donc sobre et veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Oui, Satan, le diable, fera de son mieux pour vous troubler jour et nuit. Demandez à Dieu, demandez-lui la force et la foi nécessaires. Ensuite, demandez selon vos besoins. Jésus-Christ continua à enseigner ses disciples au sujet de la prière en leur donnant une parabole. Et ceci dans Saint Luc, chapitre 11, verset 5, jusqu'au verset 13. Et ceci montre que si nous sommes réellement dans un besoin urgent, comme l'homme qui, dans la parabole, reçut la visite d'un ami qu'il n'attendait pas, alors nous pouvons être sûrs que Dieu répondra à notre prière pourvu que nous nous abandonnions complètement à sa miséricorde. Et à ce moment-là, les disciples n'étaient pas encore convertis, souvenez-vous. Non, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Et Jésus-Christ leur dit, « Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent ?» Verset 13. Dieu est plus que désireux de nous donner le Saint-Esprit. Voulez-vous posséder la sagesse, la connaissance, la foi et l'amour? Ce sont là des dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens, chapitre 12 et 13. Demandez à Dieu de vous les accorder. Il est plus que désireux de vous donner ces choses que vous ne l'êtes de nourrir votre propre enfant affamé. Avez-vous compris cela? Oui, voilà donc sa volonté. Demandez donc avec foi. Il y a deux choses qu'il faut éviter. En prêchant son serment sur la montagne, le Christ savait, selon saint Matthieu chapitre 6, versets 5 et 8, que ses vrais disciples prieraient. Il n'a pas dit « si tu pries », mais il a dit « quand tu pries ». Donc, il savait que celui qui sert vraiment Dieu doit évidemment prier souvent. Aussi, je vous demande, priez-vous souvent, chers amis? Je le souhaite pour vous. Jésus-Christ prévient ses disciples de ne jamais prier pour être vu, simplement vu des hommes, bien au contraire. Il leur dit d'entrer dans une chambre ou un lieu secret et de communiquer de là avec le Père Céleste. Le Christ enseigna que c'était mal de faire de longues prières en public que pour l'apparence, que pour se faire voir. Saint Matthieu chapitre 23, verset 14. Avez-vous jamais entendu les membres de certaines confessions qui répètent absolument la même prière depuis des semaines et des mois, de nombreuses fois? Le Christ a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront peut-être exaucés. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 7. Sans aucune condition, des prières qui sont sans aucune conviction, y compris le Notre Père, ou si je répète cette phrase, des prières qui sont sans aucune conviction, y compris du reste, le Notre Père, perdent bientôt leur signification et même leur sincérité. Nulle part dans le Nouveau Testament, le Notre Père n'est répété sans arrêt. les apôtres ne répétaient pas cette prière-là, ni aucune prière de nombreuses fois. Jésus-Christ ne nous donna du reste cette prière que à titre d'exemple, et ceci afin que nous puissions nous en inspirer pour nos propres prières. Vous êtes dans l'erreur lorsque vous pratiquez la répétition d'une prière quelconque plusieurs fois, chaque jour ou même pendant des mois. Évitez donc cette erreur. De même, n'essayez pas de toujours rendre grâce absolument de la même façon à chaque repas. Quand vous priez, n'employez pas un amas de mots vides de sens, mais pensez à vos bénédictions, pensez à vos nécessités et priez de tout votre cœur. N'ayez pas honte de prier. Il nous faut faire attention de ne pas prier pour simplement être vu des hommes. Mais cela ne veut point dire que nous devrions agir toujours en secret, comme si nous avions honte de prier. Pas du tout. Ce problème se pose à beaucoup de débutants dans la foi en Christ. Et certains ont peur de prier aussi souvent qu'ils devraient le faire, et ceci de peur que d'autres le sachent. N'ayez pas cette peur-là. Le voisinage de votre femme, de votre mari ou de vos enfants ne devrait pas vous empêcher de maintenir votre contact intime avec Dieu, votre Créateur. Dans Saint Luc, chapitre 9, verset 18, et aussi le verset 28, nous trouvons deux exemples où Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, priait à quelque distance de ses disciples, et ceux-ci savaient où il était et ce qu'il faisait. N'ayez donc pas honte si quelqu'un sait que vous priez. Faites seulement attention de ne pas prier pour être simplement vu des hommes, mais cherchez une chambre ou un lieu secret où vous ne serez pas dérangé. Lorsque Jésus-Christ, avec ses disciples, était chez l'apôtre Pierre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria, selon saint Marc, chapitre 1, verset 35. Aussi, vous pouvez toujours trouver le moyen d'être seul avec Dieu si vous voulez suivre l'exemple du Christ. On me demande parfois quelle position ou posture doit-on adopter pour prier ? Oh là là ! La Bible mentionne différentes postures ou positions propres à adopter pour la prière. Mais quand il s'agit d'une prière privée ou personnelle, vous devez, il me semble, ne pas avoir honte de vous mettre à genoux. Il est toujours de coutume de fléchir un genou. Rappelez-vous le temps des rois, de fléchir un genou devant un roi ou devant un souverain en tant que signe de respect et d'estime. Mais la Bible, elle indique que nous devons fléchir les deux genoux devant Dieu en signe de révérence et d'adoration. Dans un roi, chapitre 8, verset 54, et dans Esdras, chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons un exemple de la position qu'il convient de prendre pour la prière. Salomon, c'était pas n'importe qui, et Esdras, ils se sont agenouillés et ils étendaient les mains vers Dieu. Cette posture dénote donc l'humilité et la supplication. votre prière sera beaucoup plus fervente si vous adoptez une telle posture. Il est 100% compréhensible qu'il serait manqué de compassion et demander par exemple à une personne qui a un problème à la hanche, au genou ou au dos, ou encore dans un fauteuil roulant, de s'agenouiller, voyons, ayons un peu de sagesse, aussi un peu de réalisme, de logique, c'est pas défendu. Donc, en public ou à table, avant le repas, vous pouvez prier debout ou assis, selon les cas. Prenez la position qui, dans chaque situation, honorera le plus Dieu. Dans saint Matthieu, chapitre 14, verset 19, le Christ lui-même a fait asseoir la foule avant de bénir les pains et les poissons. Mais quand il était seul, Jésus-Christ s'agenouillait et il priait. Luc, chapitre 22, verset 41. Dans vos prières privées ou personnelles, vous devez pas avoir peur de vous agenouiller. Vous agenouiller devant Dieu et de prier avec ferveur. Seulement, évidemment, si cela vous est possible. Concentrez surtout tout votre être afin d'être en communion avec le Créateur des cieux, le Créateur des cieux et de la terre, qui est tout simplement votre Père spirituel et qui, croyez-moi, vous aime. Il vous aime beaucoup plus que nous aimons souvent nos amis ou nos voisins. Une posture correcte dans la prière vous sera d'un grand secours à cet égard-là. Et doit-on prier souvent ? Une autre question, hein ? Doit-on prier souvent ? Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, nous lisons que David, qui n'était pas n'importe qui, était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut tout dire. Lisez les psaumes et vous verrez que beaucoup d'entre eux sont simplement des prières de David. Dans le malheur, il rendait grâce et il priait pour que Dieu le guide. En toutes circonstances, le roi David communiait avec Dieu au moyen de la prière. Ne croyez pas que vous importunez Dieu en partageant avec lui vos joies et vos problèmes. Parlez à Dieu souvent, aussi souvent que vous le voulez, et en toutes circonstances. C'est sans aucun doute l'une des principales raisons pour laquelle David était un homme selon le cœur de Dieu. Si vous désirez être un enfant de Dieu, faites alors la connaissance de votre Père Céleste. Oui, parlez-lui souvent. Partagez votre vie avec Dieu. Dans Psaume, chapitre 55, verset 18, David écrit. Il écrit le soir, le matin et à midi. Je soupire, je prie et je gémis, et il entendra ma voix. David priait donc Dieu trois fois par jour. Au sujet de Daniel, ce merveilleux prophète de Dieu, nous lisons trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6 verset 10. Bien que ces exemples ne soient pas des commandements, ils nous montrent certainement que s'agenouiller pour prier trois fois par jour, pour autant qu'on le peut, est un bon moyen pour faire entrer Dieu dans notre vie. Mais croyez-moi, ne soyons pas stupides. Si une mère ou un père se trouve dans le fauteuil roulant, sa prière sera entendue aussi bien que si nous sommes à genoux. J'espère qu'on a bien compris cela, car Dieu est un Dieu miséricordieux et un Dieu d'amour. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'apôtre Paul, il a été inspiré d'écrire aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Cela signifie tout simplement que nous ne devons jamais interrompre notre vie de prière. Et cela montre aussi, de même que dans d'autres passages des Saintes Écritures, que nous devrons être toujours dans une attitude ou un esprit de prière. Parlez à Dieu pendant votre travail, aussi bien que pendant vos moments de loisir. Demandez-lui de vous guider dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actions. Dans chacune, surtout, de vos actions. Donc, si vous sentez que vous allez vous mettre en colère, ou si vous ne savez de quelle façon agir, alors demandez-vous alors ce que Jésus-Christ, ce que lui ferait s'il était ici aujourd'hui à votre place. Demandez à Dieu de vous éclairer. Étudiez la Bible afin de savoir ce que Dieu désire que vous devez faire aujourd'hui. Ensuite, demandez à Dieu la sagesse, la foi et le pouvoir d'accomplir ce qui est juste. La prière doit donc être une des plus importantes et des plus joyeuses activités de votre vie. Votre nourriture spirituelle s'obtient par le contact avec Dieu au moyen de l'étude de la Bible et de la prière. La préparation et l'absorption de votre nourriture matérielle nécessitent, je crois, au moins 2 heures par jour. Votre nourriture spirituelle également, elle devrait être tout aussi importante. Je dois malheureusement m'arrêter ici parce que nous allons déborder ce CD. Voyez-vous, si une catastrophe vous survient, si vous êtes malade ou dans l'affliction, sachez toujours que Dieu est un Dieu puissant et vous pouvez attirer à vous la source suprême de la puissance divine et simplement en vous agenouillant dans un endroit privé ou avec ferveur de tout votre cœur, vous supplierez Dieu d'intervenir pour qu'il vous aide. Dieu tient toujours ses promesses. Mettez-le donc, mes chers amis, à l'épreuve. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité, et à bientôt à nouveau. Donc, maintenant, vous pouvez prier n'importe où vous vous trouvez. À la prochaine fois. Au revoir, mes très chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.